Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois dans l'émission Cannibale. On va encore se goinfrer d'art, de culture, de création. Peut-être qu'on verra on boira quelques verres d'alcool aujourd'hui, peut-être bien, j'ai l'impression. En tout cas, on va parler d'une fiction de la vie réelle. Ah, avec Isabelle, bonjour.
Bonjour.
C'est Attends, je te parle de la compagnie des gens comme tout le monde, qu'on connaît un petit peu pour l'avoir déjà présenté ici sur d'autres spectacles. On retrouvera aujourd'hui trois des participants à ce Attends, je te parle, c'est-à-dire Marjorie Blériot et Eric Thomas, ainsi que Sandrine Roche, qui a porté un regard extérieur. Peut-être qu'on évoquera un petit peu son rôle particulier, j'imagine, dans ce spectacle qui vous sera proposé en cette fin de semaine.
Oui, le spectacle se joue au TDC, le Théâtre du Cercle, demain 31 mars et samedi 1er avril.
On revient peut-être sur comment on avait parlé de la compagnie des gens comme tout le monde.
Oui, c'est à l'époque où je vous avais parlé du spectacle We Are Family, spectacle de théâtre improvisé. Et en fait, depuis, la compagnie de théâtre improvisé La Morsure est née. Donc la compagnie des gens comme tout le monde et la compagnie La Morsure sont deux compagnies différentes.
Alors, on va pouvoir évoquer ce que Marjorie Blériot, qu'on connaît aussi un petit peu, propose avec ce spectacle-là.
Oui, alors je voudrais quand même continuer un petit peu sur la compagnie des gens comme tout le monde, parce que c'est une compagnie qui existe à Rennes depuis 2005 et qu'on connaît parce qu'elle propose des spectacles tout public et marquée aussi par une volonté d'être tout terrain. Par exemple, Défi, etc. est une création de 2009 avec Marjorie Blériot et Marina Le Guénec, et elles ont remis ce spectacle dans une nouvelle version en 2012 en version rue.
On voit que les cartes sont complètement redistribuées entre la rue et puis les salles de spectacle. Je pense à la compagnie des 26 000 couverts qui, eux, ont commencé en rue et puis qui vont de plus en plus à l'intérieur des salles et puis inversement.
Ouais, tout à fait. Et effectivement, des formes modulables, adaptables à tous les lieux. Alors, l'univers de la compagnie est le plus souvent ludique et burlesque, même si avec Attends, je te parle, le curseur semble se déplacer vers l'émotion, la parole sensible, sans que jamais la légèreté ou le rire ne soit très loin.
Des mobilettes, des motos, des trottinettes. On se trouve une rue en pente. Et on va à fond la caisse.
Attends, je te parle, clôture la saison professionnelle au TDC. Ensuite, on aura au mois de mai et juin les festivals du Théâtre du Cercle, le Festival des Créations Amateurs et le Petit Festival. Parce que j'y tiens beaucoup et je vous fais un petit rappel, mais le TDC, c'est aussi un lieu où l'on forme des comédiens amateurs qui sont toujours encadrés par des comédiens professionnels.
Et le Théâtre du Cercle, si vous ne le savez pas encore et que vous vous intéressez de près au théâtre, allez y faire un tour, c'est rue Paul Bert.
Le texte donc de Marjorie Blériot met en scène une narratrice qui raconte ses souvenirs d'enfance auprès d'une mère alcoolique. C'est l'époque de sa vie où l'on fait le mur pour retrouver sa bande.
Je sors. Rez-de-chaussée, la fenêtre, enjambée, pourquoi pas, la porte, pourquoi pas, mais non, faire comme si, faire le mur, comme si. Je pars, rejoindre ma bande. Ma bande, des mecs, Stéphane, Laurent, Enzo.
C'est l'époque où, quand on allait à un concert de Michel Fugain, on attendait de voir ses danseurs en académique.
Un académique, c'est un juste corps qui te prend du bas des pieds jusqu'en haut du corps et qui te moule bien. Un peu comme si t'étais un super-héros, mais sans la cape, sans le slip et surtout sans les super-pouvoirs.
L'époque aussi des premiers émois amoureux qui soulèvent tant de questions sentimentales et techniques.
Une fois, je me suis retrouvée toute seule avec Stéphane, dans le square sur le banc. C'était pas pareil sans les autres. Stéphane, il m'a dit... Tu viens derrière la palissade? J'étais jamais allée derrière, mais je sais qu'il y en a qui y allaient. Et je savais pourquoi. Que Stéphane me demande ça tout à coup, je me suis sentie grande. J'étais fière. On s'est retrouvés tous les deux derrière la palissade. Mais en fait, il n'y avait rien derrière. Juste un petit bout de terre. Il y avait des vieilles canettes mouillées, des bouts de plastique. On était tous les deux entre le mur et la palissade. Et Stéphane s'est collé à moi. C'est normal, je me suis dit, on n'a pas beaucoup de place. Et puis, il m'a embrassée. C'était la première fois. Je ne savais pas comment faire. Je me suis dit qu'il était plus grand. Alors j'ai suivi. Il a ouvert la bouche. J'ai ouvert la bouche. Il a mis sa langue dans ma bouche. J'ai mis ma langue dans sa bouche. Et puis il ne se passait plus rien. Je ne savais pas s'il fallait fermer les yeux. Mais les yeux ouverts, je voyais bien qu'on était ridicule.
Si la question de la dépendance est en filigrane, il ne s'agit pas de réduire le texte et le spectacle à la thématique de l'alcoolisme. Le spectacle aborde des moments de vie à travers une parole intime, sensible, mais aussi touchant à l'universalité des émotions. Il nous parle de la filiation, de la transmission, du lien.
Le lendemain, il est arrivé à l'école avec une gourmette. C'était une grosse gourmette en argent. Avec des gros maillons. Et il y avait une plaque où on pouvait écrire son prénom. Il n'y avait rien écrit dessus, mais ça se voyait bien. Comme une médaille. Et ça voulait dire que j'appartenais à quelqu'un. Et ça m'a fait plaisir. Quand je suis rentrée de l'école, maman était là. J'ai bien vu qu'elle regardait mon poignet. Elle n'a rien dit. Mais elle a souri. Et ça aussi, ça m'a fait plaisir.
J'ai vu « Attends, je te parle » donné en lecture dans le cadre de l'exposition « Boire » en fin 2015. C'était à la bibliothèque Lucien Rose à Rennes. C'était un plateau très sobre, quelques éclairages, un pupitre, et Marjorie Blériot et Eric Thomas en scène devant un public très proche. Ce qui ressortait à l'époque, c'était l'intensité des émotions qui passaient par le texte dit, mais aussi par la musique. Car c'est bien un spectacle à deux voix, où la musique a sa voix propre et rencontre celle de la narratrice.
Bah si, c'est ça qu'on a dit, on part de Dédé.
Ouais.
D'accord.
Sur la musique, tu fais le même truc
qu'Eric
que tout à l'heure?
C'est une question?
C'est une question.
Oui. oui, celle-là, ok.
Tu veux savoir où on est, Seb?
Ouais.
C'est ça. On part de Dédé, c'est juste avant la nuit, la palissade, tout ça.
J'ai rencontré Marjorie Blériot, Eric Thomas et Sandrine Roche pendant une séance de travail au Théâtre du Cercle. Ce sont eux que vous avez entendus dans le son précédent, Marjorie, Sandrine et Eric. Ils évoquent leur travail, l'évolution du texte depuis la lecture jusqu'au spectacle. Ils parlent aussi de la joie et de l'énergie du travail de création dans cette rencontre que j'ai pu faire avec eux.
C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Je suis très fleur bleue. J'adore Michel Fugain.
Vous aurez probablement reconnu la chanson Une belle histoire de Michel Fugain, diffusée à peu près 25 fois par jour sur Radio Nostalgie, mais pas forcément dans cette version-là, chantée par les comédiens de Attends, je te parle, par la compagnie des gens comme tout le monde. On va les retrouver pour un début d'interview mené par Isabelle. C'était où ?
C'était au Théâtre du Cercle, dans le foyer. Le sous-titre du spectacle est une fiction de la vie réelle. On comprend que « Attends, je te parle » est une fiction, une invention qui s'enracine dans le réel. Comment t'es venue l'idée du spectacle ?
Alors, au tout début du spectacle, en fait, ce qui m'a donné l'envie de faire ce spectacle, c'est un documentaire audio qui s'appelle « Mes parents alcooliques » d'Élodie Vaguet et de Diffie Mariani, qui est un documentaire que j'ai entendu en tournée et qui part d'un témoignage personnel, en fait son témoignage à elle. Elle parle de son histoire avec sa maman. Et pour raconter son histoire, elle est allée interroger d'autres personnes et créer des témoignages et trouver les points de résonance avec sa propre histoire à elle. Et ça s'entremêlait comme ça, ces différents témoignages. Ensuite, elle va vers une histoire avec son frère, un dialogue avec son frère, et les différentes façons qu'ils ont eues de vivre cette histoire avec leur maman alcoolique. Et ça m'a beaucoup touchée. Alors, j'ai pas cette histoire-là, mais ça m'a beaucoup touchée. Je me suis d'abord pas demandé pourquoi, puis il a fallu que je le fasse, parce que je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose avec cette thématique-là, avec ce sujet. Et puis, en fait, du coup, à un moment, on se dit, bon, ben, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Pourquoi ? Parce que j'y vois des résonances avec ma propre histoire, qui n'est pas du tout celle-là, mais qui est en autre, et sur la thématique de comment on se construit en tant qu'adulte quand on a eu une histoire comme celle-là, dans une famille qu'on appelle à dysfonctionnement. J'ai pas ce mot-là, je ne suis pas très fan de ce mot-là, mais je n'ai pas trop trouvé d'autres termes. Comment on se construit en tant qu'adulte, comment on fait pour garder une part d'enfance, parce que c'est son quotidien, donc l'enfance est toujours là. Et qu'est-ce qu'on transmet ensuite quand on devient parent à son tour, pour essayer de trouver la paix avec sa propre histoire et transmettre le moins de casseroles possible, ce qu'on fait tous, je pense, le jour où on devient parent.
Tu as écrit « Attends, je te parle ». Comment et que nous raconte ce texte ?
Je suis allée rencontrer des gens qui avaient cette histoire-là. Je suis allée rencontrer des gens qui étaient des adultes. Je n'ai pas interrogé d'enfants, j'ai rencontré des adultes qui avaient eu cette histoire-là en tant qu'enfants. J'avais besoin d'avoir une collecte pour d'abord se sentir légitime sur cette parole-là. Et puis en écoutant les gens, du coup, parler, j'étais dans des espèces de différentes couches d'écoute, à la fois très en empathie à écouter ce qu'ils disaient, en essayant d'intervenir le moins possible, et puis à la fois à trouver les images, moi, qui me faisaient résonance et comment je pouvais utiliser cette matière-là. J'avais pas du tout envie d'être didactique, ni moralisatrice, surtout pas, ni de dire, voilà, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Mais en essayant de voir ce que je pouvais en faire, ce que ça m'évoquait comme image, et puis là où, moi, ça me touchait pour être dans l'écriture. Je voulais pas du tout être dans une trame narrative, donc c'est vraiment une écriture qui a été sous forme de puzzle, de tableau, différentes... je parlais de tiroirs à un moment, comme si on tirait différentes petits flashs d'histoire. Ça peut être un personnage, ça peut être un seul personnage. Après, c'est les gens qui se font leur histoire, de trouver vraiment la forme qui donne le plus d'espace aussi au spectateur et le plus de... possibilité de trouver des points de résonance avec leur propre histoire à eux, avoir quelque chose de plus libre comme ça. Et qu'est-ce que ça raconte ? Je pense que ça raconte vraiment la filiation. Moi, il se trouve que je suis une femme, que c'est plutôt, en tant que femme, avec sa propre fille ou avec son propre enfant. Les textes, ils sont plutôt axés autour de ça. Après, j'avais envie que ce soit plus ouvert que ça, donc j'ai eu envie de aussi, comme une forme de remerciement, je pense, de diffuser des témoignages, des extraits de témoignages de certaines personnes qui m'avaient autorisé à le faire dans le spectacle, pour ouvrir aussi cette parole. D'avoir un musicien sur scène, c'est un homme, ça aussi, ça ouvre, je trouve. Et puis, il y a l'écriture du texte, il y a l'écriture de la musique, qui sont dans la même parole, mais de façon différente. Ou pas dans la même parole, d'ailleurs, à certains moments. C'est aussi deux couches différentes. Et oui, ça parle vraiment, je pense, de la filiation, de toutes ces générations qui, qui ont une histoire commune et ce qu'on fait de cette histoire-là, comment on grandit à partir de ça et comment on se sort des schémas familiaux pour se trouver le sien propre.
La vérité, c'est la vérité, mais laquelle ? Eh ben voilà, c'est quoi la vérité ? La tienne, la mienne, est-ce qu'on a la même ? Si je dis tu bois et que tu me réponds non, est-ce que je mens ? Ou alors si je fais un trait sur une bouteille au niveau du liquide et que le lendemain, ce trait n'est pas au niveau du liquide, est-ce que je suis folle ? Est-ce que je mens ? Eh ben non. Ça dépend du niveau de vérité où tu te places.
L'alcoolisme, la dépendance, mais aussi la filiation, tu l'as dit, sont au cœur du texte. Ce sont des thèmes lourds qui pourraient peut-être nous faire peur, à nous les spectateurs. Comment éviter l'écueil du pathos ou aussi, pour nous, les spectateurs, celui d'une forme de voyeurisme? Bref, quelles émotions mets-tu en scène?
Bah, les émotions, c'est toute une palette. Après... J'aime bien justement ce que je disais tout à l'heure, que les spectateurs aient une libre part d'interprétation. Donc les émotions, c'est un peu celles qui se font. Moi, je me dis pas, je vais les faire rire, je vais les faire pleurer, mais c'est la vie. La vie, elle est faite de pleines d'émotions. Alors le pathos, j'espère éviter cet écueil-là. Je pense pas être dedans, parce que l'idée, justement, c'est de travailler sur la légèreté. La légèreté, ça fait partie de la vie. Et dans cette légèreté-là, il y a de la lourdeur. Il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a toutes les émotions qu'on peut vivre au jour le jour. Il y a l'amour aussi, oui, effectivement. Mais je me dis pas, je vais travailler telle ou telle émotion. En fait, je me laisse aller, guidée par Sandrine, guidée par les sons d'Éric aussi. On n'est pas dans un truc de lourdeur. On n'est pas dans regarder comme on est malheureux, on est dans la vie, elle est comme ça et on traverse toutes ces choses-là. Et il y a des moments où j'espère qu'on rit, il y a des moments où peut-être on va pleurer, où il y a des moments où, où le temps s'étire et puis on est juste dans ce présent-là. Après, voyeurisme, je crois pas, parce qu'il... Ben, on n'est pas forcément pudique quand on est sur scène, mais en même temps, on donne des choses à voir, donc... Donc je sais pas, voyeurisme, en fait, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Je pense qu'il y a des moments où c'est intéressant de se sentir voyeur aussi, de quelque chose qui rentre dans une intimité, on fait rentrer dans une intimité.
Quand j'ai vu « Attends, je te parle », c'était une lecture avec déjà Éric Thomas en scène avec toi. Comment la forme a-t-elle évolué ?
Ah bah déjà, on était en lecture. J'étais en lecture et Eric était à la guitare. C'était les premières séances de travail qu'on a faites ensemble. On s'est découvert avec Eric, on n'avait jamais encore travaillé ensemble. Une lecture, on est pas plutôt sur quelque chose de neutre, de posé, vraiment sur le texte. On était ensemble effectivement dans le musique-texte. Là, on est rentré dans le jeu. On a travaillé avec Sandrine sur le plateau. Comment ça a évolué ? On a retravaillé beaucoup la musique depuis. Eric a fait beaucoup de propositions différentes. Alors après, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai pas envie de tout dévoiler non plus. Mais le texte s'est beaucoup plus entremêlé avec la musique et la musique avec le texte. On a trouvé aussi beaucoup plus de jeu entre le musicien et la comédienne, enfin entre les deux personnages. Plus de complicité aussi, plus de moments où on est ensemble et puis on est sur un travail de plateau, donc on est sur un travail vraiment d'implication, beaucoup plus d'implication des personnages, sur trouver le dessin aussi de cet ordre de texte, puisque du coup quand j'ai lu la première fois, je pense qu'on n'était pas dans le même ordre, puisque c'est des tableaux comme je disais tout à l'heure, donc le puzzle peut se faire dans n'importe quel sens, à un moment il va fonctionner, c'est juste cet ordre qu'on choisit qui va faire que ça fait tel ou tel dessin. Et puis il y a toute la traversée d'émotions en fait entre les différents personnages qui vont, on choisit est-ce qu'on veut commencer bas, aller haut, repartir bas en termes d'énergie. Donc c'est tout ce travail-là qu'on a fait depuis. Donc, il a bien évolué.
On a commencé à travailler avec Marjorie, en fait, toutes les deux, sur ce que j'appelle la mastication de la langue. C'est-à-dire qu'on a pris son texte, et puis on a essayé de déconstruire sa propre rythmique, enfin, d'inventer autre chose, de redécouvrir le texte. Et ça, ça a pris un temps. C'est là où on a aussi plus ou moins décidé d'un ordre, en fait, du texte, en fait, d'avoir un fil qui aille de A à Z, et en passant par telles étapes. Et puis, ensuite, j'ai travaillé avec Marjorie et Eric sur le plateau. Alors ça, c'était très joyeux, parce que tout d'un coup, ça prenait forme. Enfin, tout ce qu'on avait fait ensemble, tout d'un coup, se concrétisait. On a pu entamer un vrai rapport à l'espace. Et puis d'avoir la musique live d'Eric, ça change aussi plein de choses. Enfin, sur ce travail d'écoute que j'aime beaucoup entre les deux. Et là, on a commencé à vraiment travailler sur la prise en charge physique et spatiale de cette langue, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Et depuis, on tricote. Et c'est plutôt... Enfin, moi, c'est vraiment très joyeux d'accompagner ce projet dans donc un texte de Marjorie, la musique d'Eric, et juste d'essayer d'être le plus objectif possible avec ce que je suis et de donner mon regard, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et ça m'apporte beaucoup, personnellement aussi, sur un travail personnel, parce que tout d'un coup, je suis à l'extérieur et je vois. Et puis, oui, je trouve que c'est des bonnes pattes. Enfin, c'est-à-dire que je dis des choses, je trouve que ça répond bien et qu'on avance. Enfin, ça ne cesse d'évoluer depuis qu'on a entamé des résidences de plateau. Donc oui, la forme bouge beaucoup, il y a de l'invention à chaque fois, des propositions, enfin c'est plutôt un endroit paisible, je trouve, de recherche, en même temps c'est intense.
Le lendemain ?
J'ai bugué là, parce que ce regard-là, je pense qu'il n'était pas juste à ce moment-là, je l'ai téléphoné et...
Ouais, en tous les cas, c'est le regard, d'abord, regard, ok, je sais que vous me regardez,
ouais.
À un moment, il s'est écarté, enfin, il y a un petit temps, tu vois, et puis c'est pareil. Le lendemain, attends d'être. C'est, tu vois, hop, t'as passé la palissade, pas rien.
Ouais.
Après, si tu le sens, le regard pas exactement à ce moment-là, tu vois.
Non, je sais pas, mais là, en l'occurrence, celui-là, je l'ai fait parce que tu m'as dit de le faire et j'étais pas. C'est moi si tu me dis.
La langue dans la bouche. C'est pas moi qui l'ai dit, hein?
Dans la bouche.
C'est du gueule.
Il a ouvert la bouche. J'ai ouvert la bouche. Il a mis sa langue dans ma bouche.
Sur scène, il y a toi et Eric Thomas qui signent l'univers sonore et musical du spectacle. Déjà lors de la lecture, j'avais aimé le dialogue texte-musique. Comment avez-vous travaillé pour que la musique ne soit pas une simple illustration ?
Eh ben déjà pour moi, elle est bien plus qu'une simple illustration. Déjà à la base, pour moi, elle est une voix. J'avais envie dès le départ d'avoir un musicien sur le plateau parce que je trouve qu'on peut pas exprimer tout avec le mot. Et que c'est une façon d'exprimer des choses qui sont pas forcément de l'ordre de la parole. J'avais pas envie qu'il y ait que de la parole. Le silence dit beaucoup de choses aussi, mais la musique en dit aussi. Donc dans la mesure où c'est une voix, ça pouvait pas être une illustration. Et je pense que Eric avait surtout pas envie de travailler dans ce sens-là. C'est pas un accompagnement, c'est vraiment une voix. On raconte la même histoire, mais pas de la même façon. Après, il y a une présence qui est là aussi, la présence du musicien qui est très importante sur le plateau. De trouver aussi ces points de jonction, ce point de complicité entre le musicien, la comédienne. J'avais envie de dire soutenir, mais c'est pas un soutien en fait, c'est vraiment quelque chose qui va porter. Il y a des moments où c'est Eric qui va commencer, il y a des moments où c'est la parole qui va commencer. Enfin, c'est de voir comment chacun va amener une autre partie du puzzle qui amène l'énergie suivante. Qu'est-ce qui va créer une tension peut-être sur un texte très paisible à la base? Qu'est-ce qui va vraiment être quelque chose de sous-jacent? Qu'est-ce qui va prendre le pas? Et puis comment on a travaillé? Bah déjà Eric a fait beaucoup de propositions, beaucoup. Je serais jamais allée dans ces énergies-là sans les propositions d'Eric, je pense. Enfin, je suis même sûre en fait. Et puis je pense que l'un comme l'autre, on n'avait pas. L'illustration, c'est pas intéressant, quoi. Donc c'est vraiment de trouver quelque chose de qui amène ailleurs, qui décale le propos, qui n'aille pas justement dans le pathos. C'est ça aussi qui amène le fait que ce soit pas dans le pathos.
Le travail, en fait, comme a dit Sandrine tout à l'heure, il est à la fois paisible et intense. Et du coup, on n'est pas parti du principe que c'est ni une forme concertante, c'est ni une forme récitante avec de la musique en dessous, un tapis qui accompagnerait. Donc on est plutôt parti dans un vaste champ d'improvisation où, en fait, là, par exemple, sur le travail au plateau, il y a et la voix de Marjorie, et le texte de Marjorie, et l'espace qui est là, et un grand truc qu'on appelle la musique, mais qui est en gros le son dans son ensemble, enfin tout ce qui est musical, musicalité, donc rythme, silence, et parfois je fais ce qu'on appelle de la musique, avec des notes, quelques notes, trois fois rien.
Maman a oublié d'éteindre le gaz. J'ai su que c'était le gaz parce que ça sentait pas bon.
Éric, comment as-tu écrit cette musique qui est une création pour le spectacle ?
Je crois que je ne l'ai pas écrite, la musique, la dite musique. J'essaye de la trouver. En fait, on la trouve ensemble. Donc, j'aurais surtout pas la prétention d'écrire ou de composer une musique spécifiquement pour le spectacle, mais plutôt d'essayer de la trouver. Et donc, pour la trouver, il faut juste la chercher. Donc là, c'est ce qu'on fait constamment. Et par rapport à une question précédente, je pense que c'est là aussi qu'intervient la bonne évolution, ou le spectacle qui a bien évolué depuis la dernière fois et la lecture que tu avais vue. C'est-à-dire que on a passé plus de temps ensemble, donc il y a eu plus d'allers-retours, plus d'échanges. Les retours de Sandrine aussi, et donc... J'en sais rien. Peut-être la dernière fois, sur un passage de texte très précis, il y avait une musique et aujourd'hui, il n'y en a plus. Ou peut-être il y avait une musique A et aujourd'hui, c'est un thème B. Et peut-être avant, c'était des notes et maintenant, c'est du bruit. C'est vivant, quoi.
Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien.
Vous avez pu entendre dans cette interview réalisée par Isabelle, eh bien Marjorie Blériot, Sandrine Roche et Éric Thomas, dont on écoutait à l'instant un court extrait de la musique qu'il a composée spécialement pour Attends, je te parle, de la compagnie des gens comme tout le monde.
Compagnie qu'on retrouvera au Théâtre du Cercle demain, vendredi 31 mars et samedi 1er avril.
Et puis si vous voulez les retrouver par exemple à Verne-sur-Sèche ou à Montfort-sur-Meux un peu plus tard dans la saison, hein, toutes les infos sont sur leur site desgens.fr, on ne peut pas faire plus simple.
Alors j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand même et qui me semble nécessaire, c'est de nommer tous ceux qui participent à la création de ce spectacle. Donc vous avez entendu Sandrine Roche qui met en scène et qui est le regard extérieur de ce spectacle, mais vous n'avez pas entendu Sébastien Lucas qui est à la création Lumière et Maurienne Nolo, scénographe du spectacle.
Cette fois-ci, vous savez tout. On se retrouve très bientôt pour parler théâtre. Ce sera avec Ronan, d'ailleurs, en début de semaine prochaine, où on évoquera des lettres de non-motivation. Et puis, la fin de la semaine sera un peu plus chargée en théâtre, forcément, parce que c'est Mythos Oblige, hein, qui commence ce vendredi. Et on vous retrouvera pour trois plateaux en direct du Cannibal Magic Mirror, qui se tiendra, évidemment, comme d'habitude, du côté du Tabor. Ce seront les 6, 7 et 8, à 12h30. Évidemment, Isabelle, tu seras des nôtres.
Je serai des vôtres.
Et puis on retrouvera aussi Ronan, et puis Marie, et puis Nadia, et puis Paco pour nous faire une belle émission. 12h30, 14h, hein, c'est les deux extrémités de ces rendez-vous cannibales au cannibale pendant Mythos. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
À bientôt.